Dans la vie, les conflits sont inévitables. C'est pour cela qu'une bonne éducation enseigne déjà aux petits-enfants à demander pardon. Mais il faut que cette démarche soit authentique, suivie d'un changement de comportement, car les excuses du bout des lèvres sont sans valeur. C'est bien là que se situe le problème du pharaon qui ne veut pas lâcher les Hébreux qu'il retient esclaves. Après qu'une succession de plaies se soit abattue sur le pays, il reconnaît ses torts vis-à-vis de Dieu et dit d'accepter de laisser partir Israël. Mais dès que le fléau est levé, il change de ton. Des sauterelles viennent de raser toute la végétation sur pied. Alors le roi éprouve à nouveau ce sentiment douloureux d'avoir mal agi. Je continue dans le chapitre 10 de l'Exode. Le pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron. Elle leur dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Maintenant donc, pardonne, je te prie, mon péché cette fois encore, et priez l'Éternel, votre Dieu, pour qu'il me débarrasse de ce fléau meurtrier. » Moïse sortit de chez le pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un violent vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il n'en resta pas une seule sur tout le territoire de l'Égypte. Mais l'Éternel rendit obstiné le cœur du pharaon, qui ne laissa pas partir les Israélites. C'est toujours la même rengaine. Pharaon semble une fois encore bien disposé. Moïse agit donc comme s'il était sincère, tout en sachant très bien qu'il essaye seulement de gagner du temps. Mais l'Éternel ne veut pas détruire l'Égypte. Alors il chasse ces sales bestioles dans la mer pour nourrir les poissons. D'un point de vue humain, l'obstination du pharaon est tout à fait incompréhensible. La seule explication est celle que donne le récit. L'Éternel rendit obstiné le cœur du pharaon. La condamnation du roi est maintenant sans appel, car il a atteint un point de non-retour. Il a perdu la faculté de se repentir, et rien ne peut plus changer la suite tragique des événements. Ces dernières plaies sont très éprouvantes pour les Égyptiens qui souffrent vraiment. Perdre la plupart de son cheftal est une catastrophe. Mais on peut s'en remettre. Par contre, entre la grêle et les sauterelles, qui ont à peu près tout détruit, il ne reste plus, comme nourriture, que ce qui était à l'abri dans les silos, en dur ou sous terre dans des caves. Je continue avec la neuvième plaie. L'Éternel dit à Moïse, « Lève la main vers le ciel, et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres, de sorte que l'on doive y tâtonner. » Moïse étendit la main vers le ciel, et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans des ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre, et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Après l'équinoxe de printemps, le vent d'ouest qui domine en Égypte pendant près de 2 mois apporte souvent du sable voilant partiellement le soleil. Ce phénomène, sous une forme accentuée, pourrait peut-être constituer une explication de ces ténèbres. En effet, l'Éternel utilise souvent les phénomènes naturels en les renforçant, ce qu'il a fait précédemment avec le fléau des sauterelles. De toute façon, que ce soit du sable ou autre chose, ces ténèbres insultent le dieu soleil, Ré, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte, présentée comme le disque du soleil. Le symbole le plus courant de l'art égyptien. Ces ténèbres furent terrifiantes pour les Égyptiens, car aucune de leurs idoles, pas même Osiris, le dieu du bien, de l'au-delà et de la vie éternelle, n'a pu disperser cette nuit noire écrasante. Comme vous sans doute, je me souviens d'avoir expérimenté l'absence totale de lumière, en particulier dans une grotte. Cette noirceur presque palpable induit un sentiment d'angoisse qui augmente au fil des minutes. C'est d'ailleurs la même chose en ce qui concerne un silence total. J'ai vu ça, je me rappelle, lors d'un coup d'acoustique que Je suivais pendant mes études universitaires. On ressent l'absence de son comme une épaisseur qu'on pourrait presque couper au couteau. Le seul semblant de bruit qui est à peine discernable est le battement dans son propre cœur. Et ça aussi, c'est effrayant. Soit dit en passant, que selon les Écritures et contrairement aux fresques du Moyen-Âge, le jugement éternel est un état qui correspond à une solitude absolue, des ténèbres totales, un silence complet et des remords interminables. Pour ce qui est de cette dernière plaie, tout comme la troisième et la sixième, le pharaon n'a pas été prévenu de son arrivée. Ces ténèbres poussèrent le roi à proposer un quatrième et dernier compromis à Moïse. Je continue. Le pharaon fit convoquer Moïse et lui dit « Allez rendre un culte à l'Éternel. Vos enfants pourront vous accompagner. Seuls votre petit et votre gros bétail resteront ici. » Le pharaon a mis pas mal d'eau dans son vin. Il fait un certain effort, mais ce n'est pas suffisant. Grand manipulateur, il croit toujours pouvoir tirer son épingle du jeu. Alors il calcule et se dit que, sans viande à manger, les Hébreux ne feront pas long feu dans le désert et reviendront rapidement au pays. Le pharaon refuse toujours de se soumettre et dicte encore des conditions. Il refuse de lâcher prise et de laisser partir le peuple hébreu. Il faut qu'il le retienne par un fil que l'ange exterminateur devra finalement couper en frappant de mort tous les premiers-nés. Je continue. Moïse répliqua, « C'est toi-même qui nous fourniras les animaux pour le sacrifice et les holocaustes de notre Dieu, et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici, car nous choisirons dans notre cheftel des victimes pour les offrir à l'Éternel, notre Dieu. Tant que nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne serons pas nous-mêmes ce que nous offrirons pour le culte à l'Éternel. » Moïse est dur en affaire. Et je doute vraiment qu'il bégaye ou qu'il ait la langue embarrassée d'une quelconque manière. Il a pris beaucoup d'assurance au fil de ses confrontations avec le roi d'Égypte. Non seulement il va emmener les Hébreux avec armes et bagages, mais en plus il déclare que Pharaon va lui fournir les animaux pour le sacrifice à l'Éternel. Il ne manque décidément pas d'aplomb. Il tire même un peu sur la corde, vu qu'il ne doit pas rester grand-chose du cheftel égyptien. Mais ces bêtes qu'on va lui fournir font partie des arriérés de salaire des Égyptiens qu'ils donneront aux Hébreux afin qu'ils ne quittent leur pays. Je finis ce chapitre. Mais l'Éternel rendit le cœur de Pharaon obstiné, de sorte qu'il refusa de laisser partir le peuple. « Va-t'en d'ici, cria-t-il à Moïse, et prends garde. Ne reparais plus jamais en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Moïse répondit, « Tu l'auras voulu. Je ne reparaîtrai plus en ta présence. » Les négociations sont rompues et Pharaon montre les dents. Il croit qu'il dispose toujours de toute sa puissance de feu, parce que son armée, avec ses chars légendaires, est intacte. C'est incroyable, mais après tout ce qu'il a vécu, il pense encore pouvoir avoir le dernier mot. Moïse ne se laisse pas intimider. Et en gros, il lui dit, « Tu as signé ta propre condamnation, et l'encre est sèche. » Au fil du temps, Moïse est devenu un homme courageux et sûr de lui, car, confiant en l'Éternel, on se dirige donc vers la dixième et dernière plaie. Nous arrivons au chapitre 11 de l'Exode, où a lieu le dénouement de cette confrontation entre Moïse et Pharaon et entre l'Éternel et les faux dieux égyptiens. La dernière plaie est la mort des premiers-nés, aussi bien des personnes que des animaux. C'est ce qui va finalement forcer le Pharaon à laisser le peuple d'Israël quitter son pays avec tous leurs biens, leurs troupeaux et toutes les richesses que vont leur donner les Égyptiens. Tous, Pharaon en tête, vont savoir qu'il est futile et stupide de s'opposer au Créateur du ciel et de la terre. L'Éternel a été miséricordieux et patient en donnant au peuple d'Égypte de multiples occasions de changer de comportement vis-à-vis de l'Éternel, mais en vain. Je commence à lire. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même, il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple, que chacun demande à son voisin, et chacune à sa voisine, des objets d'or et d'argent. L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. » Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon et par la population. Il est bien dommage que ces dignitaires n'aient pas pu convaincre leur maître d'obéir à l'Éternel. Le peuple d'Israël va partir les poches et les mains pleines, comme prévu et selon la prophétie que Dieu avait faite à Abraham. Je continue. Moïse dit au Pharaon, « Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte, et tous les fils aînés dans ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tous les premiers-nés du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays, comme il n'y en a jamais eu, et comme il n'en a plus de semblable. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes hauts fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant « Va-t'en, toi et le peuple qui marche à ta suite. Après cela, oui, je partirai. » Moïse sortit alors de chez le Pharaon dans une grande colère. Moïse est retourné voir le roi pour l'informer de la suite que l'Éternel allait donner à cette confrontation. Peut-être n'a-t-il eu un contact avec le grand vizir, celui qui faisait office de premier ministre et qui dirigeait les affaires du pays au jour le jour. Qu'a-t-il bien pu se passer entre ces hommes? On l'ignore. Ce qu'on sait, c'est que la dernière entrevue entre Moïse et la maison du Pharaon ne fut pas de tout repos. Le conflit qui les oppose a atteint son apogée et Moïse a les nerfs à fleur de peau. Ces jugements se sont étalés sur plusieurs mois. Alors, depuis le temps qu'elles durent et que ce climat tendu se prolonge, il n'est pas étonnant qu'ils se sentent usés. Cet ultime entretien s'est déroulé selon le plan de Dieu. L'obstination du Pharaon va permettre au prodige divin de se poursuivre et à la gloire de Dieu de se manifester. Mais sur le plan humain, ça s'est très mal passé parce que la maison de Pharaon ne veut toujours rien entendre et Moïse est indigné et furieux parce que le roi, flanqué de ses mauvais conseillers, va être responsable de la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Alors, il est ressorti rouge de colère de son entrevue. Jusqu'à présent, 9 fléaux se sont abattus sur le pays, dont 6 furent annoncés d'avance au Pharaon. Si l'expérience sert à quelque chose, le roi devrait savoir que cette 10e plaie va avoir lieu tout comme les précédentes. Mais que pensait-il donc qu'il allait arriver? Le texte ne donne aucun détail qui satisferait notre curiosité. Tout au début, avant que ne commence la série des 10 plaies, l'Éternel avait averti Pharaon en lui disant « Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Après les premiers jugements, si le roi s'était repenti, tout serait rentré dans l'ordre et il n'y aurait plus eu de fléau. Mais au lieu de cela, il s'est endurci toujours davantage jusqu'au moment où il a dépassé le point de non-retour. À partir de ce moment, plus rien ne pouvait empêcher qu'on en arrive à la 10e plaie et les premiers-nés égyptiens n'auraient pas péri. Ce dernier jugement est particulièrement sévère. Au Proche-Orient, l'avenir de la famille reposait sur le fils aîné qui recevait une double part d'héritage. Un jugement, les frappant de mort, touchait aussi le cœur de toute la communauté. Même les esclaves non-hébreux seront affectés. Ce sont eux qui accomplissait le travail particulièrement éprouvant de moudre les grains en faisant tourner une énorme pierre mobile sur une autre fixe. Les premiers-nés, qu'ils soient des hommes ou des bêtes, appartenaient de droit aux dieux d'Égypte. L'Éternel va les réclamer avec violence. La dixième plaie n'est pas déclenchée par Moïse et Aaron, comme les précédentes, mais par l'ange de l'Éternel, sans l'intervention d'un agent naturel ou humain. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant ». C'est ce qu'ont expérimenté les habitants d'Égypte. Les détails de ce dernier fléau nous sont donnés par le texte. Elle sera soudaine, au milieu de la nuit, au moment où le sommeil est le plus profond. L'ange exterminateur frappera. Ce jugement ne se fera pas furtivement et en douceur, mais avec force et fracas, de telle sorte que toutes les maisonnées seront secouées, réveillées et assisteront en poussant de grands cris de douleur à la mort de leur premier-né. Dans la province de Goshen, où sont les Hébreux, par contre, il ne va strictement rien se passer. Même les chiens n'aboieront pas. Cette image bucolique évoque le calme, la sérénité et l'absence de danger. Ce sera une soirée éclairée par une belle lune propre à des rendez-vous romantiques, suivie d'une nuit ordinaire et paisible pour tous les Hébreux dans leur chaumière, qui se reposent après une très dure journée de labeur. La distinction que l'Éternel va établir entre le pays de Goshen, où se trouve Israël et le reste de l'Égypte, ne tient pas dans une préférence personnelle de l'ange exterminateur, ni dans le fait que, d'un côté, ce sont des Juifs et de l'autre des païens. La différence réside dans ce que du sang d'un agneau ou d'un chevreau aura été appliqué sur les linteaux de la porte d'entrée. Chaque maison sera traitée de la même manière, peu importe qu'elle soit habitée par des Israélites, des étrangers, des esclaves ou des membres de la caste supérieure, qu'ils soient prêtres ou nobles. Si quelqu'un peint de sang sur les bords de sa porte, l'ange de la mort ne s'arrêtera pas, mais passera outre. C'est là l'origine de la Pâque juive, la plus ancienne et la plus importante de toutes leurs fêtes religieuses. Elle est annonciatrice de la venue et de la mort sacrificatoire de Jésus-Christ, le Messie. Je finis le chapitre. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. » Moïse et Aaron accomplirent donc tous ces prodiges en présence du Pharaon. Mais l'Éternel rendit son cœur obstiné, de sorte qu'il ne laissa pas les Israélites quitter son pays. À l'aube du jour de la délivrance, l'auteur résume la raison des 10 plaies d'Égypte. Les 9 premiers fléaux furent un véritable bras de fer entre le Pharaon, maître et souverain incontestable de l'Égypte, et l'Éternel, le Seigneur et souverain incontestable de tout l'univers, le ciel, la terre et les abîmes, y compris l'Égypte bien sûr. L'objet principal du texte a été de faire ressortir avec force la domination absolue du Seigneur, sa suprématie sur toutes les puissances qui font obstacle à son projet de libération de son peuple. Il ne peut être comparé aux faux dieux égyptiens qui lui sont totalement soumis. Ils se moquent du pouvoir des magiciens qui, malgré leurs puissances occultes réelles, doivent s'avouer vaincus très tôt dans le combat. Dieu se révèle aussi le patron du Pharaon qui, malgré son statut et son attitude fourbe, n'est qu'un instrument entre les mains du roi des cieux. Son obstination a déclenché une série de prodiges qui ont fait éclater la grandeur, la majesté et la gloire de l'Éternel. Tous, aussi bien le Pharaon, les dignitaires, les Égyptiens que les Hébreux, sont témoins de la toute-puissance du Créateur des cieux. Comme il l'a dit lui-même, je le cite, « Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre, je t'ai laissé en vie pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Ce Dieu va délivrer son peuple de l'oppression égyptienne. Cet événement capital de l'histoire d'Israël sera commémoré par la Pâque juive annonciatrice de la Pâque chrétienne qui proclame la résurrection du Christ.